m'en dirai des nouvelles au Festival d'Avignon.
Jean-François Cadet, Laurent Salanic, Baptiste Antoine, Marie Jiquel, Philippe Nadel.
Bonjour, bonsoir. C'est un spectacle qui ressemble à un polar. Il commence par la découverte d'un cadavre, une femme retrouvée pendue à un mât et enroulée dans le drapeau national. La victime s'appelle Ida, c'est la mère de Martha Heiger, une dirigeante d'extrême droite d'envergure nationale qui aspire à devenir Premier ministre. Nous sommes sur Tristesse, une petite île danoise qui s'est dépeuplée une fois fermés les abattoirs qui en assuraient la prospérité. Revenus pour les funérailles, Martha Heiger et les villageois vont se retrouver acteurs d'un huis clos à la croisée du théâtre et du cinéma, dans lesquels les sincérités successives, les faux-semblants et les manipulations se conjuguent au service d'un spectacle qui prête souvent à rire, mais aussi à réfléchir. Tristesse, d'Anne-Cécile Van Dalem, c'est jusqu'à jeudi 14 juillet dans le gymnase du lycée Aubanel, ici à Avignon, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Anne-Cécile Van Dalem.
Bonjour.
Sur le plateau, il y a trois petites maisons et une église. Et puis, il y a au-dessus un écran sur lequel passe le message « Ceci est une histoire vraie ». Alors, « Ceci est une histoire vraie », c'est cinq mots finalement assez banals qui vont prendre un sens plus important à la fin du spectacle. On n'en dira pas plus pour l'instant. Reste que vrai ou pas, c'est une histoire qui, dès le départ, a l'air crédible, qui se déroule d'ailleurs dans un décor extrêmement réaliste, celui donc du décor de la vie de cette petite communauté, une communauté extrêmement restreinte. Quelle est l'origine de cette histoire?
Il y a plusieurs origines. Je suis allée sur une île au Danemark, qui s'appelle pas du tout Tristesse, qui s'appelle Samsø, où j'ai rencontré pas mal de gens, et j'ai surtout rencontré l'histoire de cette île qui, effectivement, vivait de l'économie d'un abattoir. Il y avait énormément de fermiers, et puis cet abattoir a fermé pour des raisons politiques, et un fermier s'est donné la mort aussi. Bon, il se fait que cette île s'est redressée économiquement et est devenue un modèle mondial, notamment en termes d'énergie renouvelable. Donc, c'est pas du tout le destin que je réserve à mes tristes. Mais voilà, il y avait cette rencontre avec cette île. Il y avait la rencontre aussi avec la lecture, la version spinozienne de Deleuze sur la tristesse, qui définit la tristesse comme une diminution de la puissance d'agir. Cette diminution de puissance s'exerçant par une situation, par une personne. Et dans le contexte de la montée des populismes, moi j'ai commencé à écrire cette histoire il y a 2 ans, je me suis posé la question de savoir si finalement ces mouvements populistes ne s'appuyaient pas exactement sur ce même schéma, c'est-à-dire profiter d'une désespérance qui est déjà là, mais quelque part asseoir leur idéologie sur cette désespérance, sur cette tristesse, y ajouter de la peur, y ajouter de la paranoïa, et avoir un terrain comme ça qui est tout à fait fécond et stratégiquement favorable à la développement.
Et ajouter un cadavre aussi, Anne-Cécile Van Dalem, puisque la première question, évidemment, quand on découvre un cadavre, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on pourrait penser à le décrocher, hein, puisqu'il est accroché en haut du mât, sauf que Martha, la fille que vous interprétez, d'ailleurs vous-même, et qui n'est pas encore arrivée sur l'île, ne le veut pas. Donc, c'est assez étrange, mais ça prouve que dès le départ, l'ombre de Martha plane, hein, sur cette petite communauté. Même chose, d'ailleurs, pour la cérémonie qui se prépare. Tout le monde, au début, n'est pas d'accord.
On ne chantera pas l'hymne national.
Quoi?
On chantera le chant des éleveurs.
Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre d'un choc fermier? Quand elle va à l'étranger, c'est l'hymne national qu'on lui chante.
Elle ne va pas à l'étranger, elle revient sur son île et sa mère vient de mourir.
De se pendre, ok, sa mère vient de se pendre.
Au drapeau! On ne chante pas l'hymne national à quelqu'un dont la mère vient de se pendre.
Non, 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 moi, on va chanter la chanson des fermiers qui conduisait le petit bœuf à l'abattoir. C'est ça que tu veux. Tu veux tout de suite te remettre notre échec en tête.
Cet abattoir, c'est l'île. C'est notre histoire qu'on lui chante.
De toute façon, c'est moi le maire sur cette île. L'autorité ici, c'est moi, et on chantera ce que je décide. Ici, on reçoit un futur chef d'État avec l'hymne national, pas avec un choc fermier. Allez, va chercher ma trompette, mon père.
Tu m'humilies, Peterson. Tu nous humilies.
Pourquoi est-ce que ma femme est toujours là-haut?
Condoléances, tu guéris.
Tom Cricré, Petersen, chacun son dû. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que ma femme fait pendue au milieu du village?
C'est votre fille qui a demandé à ce qu'on n'y touche pas.
Comment ça?
Elle a demandé à ce qu'on n'y touche pas avant son arrivée.
Mais quoi? Vous n'allez pas y toucher?
Mais non, tu es guère. On n'y touchera pas puisque c'est sa volonté.
Et la volonté de ma femme, vous y avez pensé?
Sous votre respect, tu es guère, il me semble que la volonté de votre femme est accomplie.
Voilà, effectivement. Alors, on a compris, Anne-Cécile Van Dalem, que l'histoire, à la base, est tragique, mais que c'est très drôle. Hein. Il y a des répliques bourrées d'humour, assez cyniques, souvent. Il y a une pincée d'absurde, hein, aussi, dans ce spectacle. Des situations complètement décalées. Bon, c'est absolument délicieux et jubilatoire. Quelle fonction le rire a-t-il dans un spectacle intitulé Tristesse ?
Bah, d'abord, une fonction de mise à distance, je vais dire. C'est-à-dire... Au départ, je voulais... Tristesse devait être une comédie. Bon, déjà, l'idée, c'était de se dire aussi comment peut-on agir face à ces tristesses. C'est en prenant du recul et en riant. Ça raconte beaucoup l'histoire de gens qui se cassent la figure. On rit parce que les gens se cassent la figure. On rit des échecs, on rit des tentatives de sortir de ce marasme, de sortir des situations qui ne parviennent jamais, qui échouent tout le temps. Et c'est ça, c'est ce rire-là, c'est le rire de l'échec. Et rire de l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est très propre à mon écriture et à ma façon d'aborder les histoires et à ma façon d'aborder aussi le réel.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui ont l'air malheureux dès le début. Par exemple, Anna Sorensen, qui joue la mère. Il y a des personnages qui sont éteints. On saura pourquoi, évidemment, au fur et à mesure que l'histoire progresse. Il y a des familles boiteuses, des familles qui ont été détruites. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de culpabilité. C'est des gens qui ont l'air des gens très, très simples et qui, en même temps, ont un passé, mais extrêmement chargé, extrêmement lourd.
Oui. Et on apprendra que ce passé, ce qu'il porte, en fait, est déjà l'origine du mal vient déjà de ce parti et de l'ancienne version du parti, et puis d'une corruption. Donc on sent, j'avais cette volonté vraiment de nommer, de créer cette origine du mal dont on pense, voilà, par rapport à la fermeture des abattoirs, qu'elle peut être une conséquence d'une mondialisation,
Mais c'est une île, mais elle n'est pas hors dehors du monde.
Pas du tout. C'est une île qui est à une heure du continent. Simplement, ils sont complètement dépendants du bateau parce que politiquement aussi, ils sont dépendants du bien vouloir, en fait, du financement de ce bateau. Donc. Oui, il y a énormément de non-dits, énormément de charges, mais parce que je pense que on est tous chargés. Le résultat, en tout cas, l'état du monde dans lequel on est aussi le résultat d'une charge, d'un poids, d'une histoire qu'on porte et qu'on n'arrive pas nécessairement toujours à formuler ou dont on n'arrive pas à s'extraire.
Et c'est vrai que dès le début, vous installez comme ça le malaise, hein, sur le plateau. Le spectateur attentif peut voir effectivement des petits détails qui alertent sur ce qui va être révélé un peu plus tard. Par exemple, la femme du pasteur change d'humeur assez régulièrement. Le pasteur lui-même a l'air pas très à l'aise dans ses baskets, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a le personnage de Petersen qui est joué par Jean-Benoît Hugeux. Alors lui, ça doit être un personnage vraiment, il est fascinant et ça doit être assez jubilatoire de jouer ce personnage. Il est tyrannique avec sa famille et en même temps c'est un faible.
Tout à fait, c'est le plus faible de tous. Pour moi, c'est vraiment le plus faible de tous, c'est-à-dire c'est celui qui va vraiment être en opposition à la puissance, il va être dans le pouvoir et dans la recherche du pouvoir systématique, avec une volonté comme ça d'être aimé partout où il va, qui le rend absolument insupportable et qui le pousse chaque fois dans des situations en fait de domination, c'est-à-dire il a tout le temps besoin d'asseoir son pouvoir sur les autres, mais en fait c'est le plus con et le plus faible de tous.
Oui, c'est génial à jouer ce genre de personnage.
Je pense, oui.
Alors bon, il y a aussi une des gamines qui est muette, on ne sait pas pourquoi, il y en a une autre qui dès le début est fascinée par les armes. Ça a l'air totalement malsain, d'ailleurs, le rapport qu'elle peut avoir avec les armes à feu, en l'occurrence. Et puis, il y a aussi les relations, alors là, très, très compliquées, entre Martha et son père.
Et qu'est-ce que tu as vu faire ici, d'ailleurs ?
Je suis venue la chercher.
Comment ça ?
Je la prends avec moi, sur le continent. Je ne veux pas qu'elle aille ici. Je remarque que tu n'as rien à voir avec cette histoire.
Tu crois peut-être que j'ai été raccrochée ?
Ah, au moins des élections, papa.
Ta mère s'est pendue. Est-ce que tu pourrais une seule fois t'abstenir de tout ramener à toi ? C'est son suicide. Tu peux lui laisser ça, non ?
Oui, mais elle aurait pu trouver une autre manière tout de même, non ?
Anne-Cécile Van Dalem, une femme qui est responsable d'un parti politique d'extrême droite, qui a des difficultés personnelles avec son père. On est obligé de penser à Marine Le Pen et Jean-Marie.
Bien entendu, oui, très probablement.
Alors la scène se passe dans un sauna, hein, le petit extrait qu'on a entendu. Donc on le découvre sur l'écran qui est accroché au fond de la scène, parce que vraiment, et c'est important que chaque auditeur puisse imaginer un petit peu ce qui se passe. En fait, tous les événements qui se produisent à l'extérieur du village, donc sur la place du village, c'est du théâtre, c'est sur le plateau. Et ce qui se passe à l'intérieur de l'église, à l'intérieur de chacune des maisons, le spectateur le découvre par l'écran vidéo interposé. Pourquoi ce dispositif-là, ce mélange entre les deux types de jeux ?
Parce que tout d'abord, j'avais besoin de trouver un moyen de raconter l'intérieur et l'extérieur, de raconter, puisqu'on est dans une histoire qui à la fois renferme énormément de secrets, énormément de non-dits, et en même temps, tous ces non-dits et ces secrets vont finir par en fait être percés à jour. J'avais envie de travailler sur cet espace intérieur et extérieur. La caméra me permet ça, évidemment.
Vous auriez pu changer de décor.
J'aurais pu changer de décor, oui, mais j'avais envie d'utiliser le langage cinématographique aussi parce que, bon, d'abord dans l'histoire, le projet de propagande et l'utilisation du langage cinématographique est fonction dans cette histoire, et puisque c'est ça qu'elle essaye d'imposer sur cette île. Donc voilà, c'est une forme de mise en abîme en même temps de ce projet. Et en même temps, la caméra me permet d'avoir vraiment, autant l'espace public et l'espace théâtral est un espace que je dirais plutôt d'un plan large où le spectateur fait son propre choix de là où il veut poser le regard, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en même temps.
Oui.
Autant l'intérieur, il y a un regard décidé par la caméra, contrôlé, qui nous donne une seule et même version de l'histoire.
Mais c'est vrai que parfois, on voit les personnages de dos, par exemple, lorsqu'ils sont sur le seuil d'une maison ou de l'église, on voit le personnage de dos et en même temps, on le voit de face sur l'écran. Tout est filmé en direct, on est d'accord.
Absolument.
Rien n'a été enregistré au préalable.
Rien.
Donc ça veut dire que chaque comédien et chaque comédienne est obligé de jouer théâtre et de jouer cinéma en même temps. Alors comment on fait? Parce que c'est pas du tout le même type de jeu.
Non, alors je travaille avec des comédiens qui ont l'habitude de travailler au cinéma aussi. Ça se travaille, voilà, c'est clair qu'au cinéma on joue plus petit, mais on joue aussi en fonction du cadre, du cadrage, donc qu'on soit en gros plan, qu'on soit en plan large, même en cinéma on adapte son jeu. Après il y a des techniques, on joue parfois, j'essaie de les faire jouer plus lentement, simplement jouer un peu plus lentement, mais c'est très ludique parce que passer justement de l'espace cinéma à l'espace plateau, ça demande une agilité très forte, mais qui au final est très ludique, et c'est aussi la liberté que les acteurs prennent sur le dispositif qui est très imposant.
Oui, ça demande aussi une bonne réactivité du point de vue du réalisateur, effectivement, j'imagine aussi, passer à la bonne image à la seconde près.
Tout est quasiment l'entièreté du film, et ce sont des plans séquences. Donc il y a un caméraman à l'épaule, donc qui est en plan séquence, donc c'est vraiment une chorégraphie de l'image qui est très, très écrite au cordeau. Mmh. Et puis on a une deuxième caméra qui fait les plans de coupe. Mais c'est vrai que le chef opérateur qui travaille avec moi, qui s'appelle Federico D'Ambrosio, qu'il faut vraiment remarquer parce qu'il fait un travail remarquable, il enchaîne deux séquences d'une heure en plan séquence à l'épaule où il travaille le point seul. Enfin, c'est un travail technique incroyable, mais c'est vraiment quelqu'un qui rentre dans l'histoire avec nous. C'est un des acteurs parce qu'il sait anticiper. C'est vraiment comment arriver à un moment donné à anticiper les situations, arriver juste avant, juste après. Voilà, tout ça.
Ça veut dire qu'à chaque spectacle, le spectateur voit à peu près la même chose sur les écrans, même si les acteurs, évidemment, sont des acteurs de spectacle vivant.
Oui, bien sûr, il y a toujours une toute petite marge de différence selon le public, selon l'humeur dans laquelle on est, selon la dynamique dans laquelle on est, selon qu'on soit fatigué ou pas. Mais il y a quand même une régularité assez forte parce que le dispositif le demande.
Oui, en même temps, le spectateur, lui, peut choisir de regarder soit l'écran, soit la scène. Donc il se fait lui aussi son propre film,
spectacle. Je pense qu'il y a énormément de possibilités de lecture de cette histoire, tant dans l'image, dans ce qui est donné à voir, que même dans ce qui est donné à entendre.
Alors vous jouez vous-même, on l'a dit, Anne-Cécile Van Dalem, le personnage de Martha. Ça veut dire que vous intervenez vraiment à tous les niveaux du spectacle. C'est vous qui avez écrit, c'est vous qui mettez en scène. Même au niveau du jeu, vous êtes quelqu'un qui veut absolument tout contrôler.
On peut le prendre comme ça, mais on peut prendre aussi dans l'autre sens. Moi, je suis comédienne au départ. J'ai fait des études de comédienne au conservatoire. Donc, j'ai commencé à écrire mes spectacles parce que j'avais envie de raconter mes histoires. Mais au départ, c'était du plateau. Donc, même dans la mise en scène, j'ai beaucoup plus facile de transmettre mon énergie parce que je n'ai pas tous les outils pour diriger un acteur. Donc, j'ai plus facile de transmettre mon énergie en jouant avec eux. Donc, voilà, je pose les cadres du jeu et puis après, je rejoins le jeu pour jouer avec eux. Sinon, ça me semble totalement... je l'ai fait, hein. Dans les deux derniers spectacles, je m'étais retirée du jeu et c'était très dur. En fait, c'était presque masochiste. Donc là, je m'amuse avec eux.
Et comment est-ce que vous avez joué avec les comédiens? Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux plus exactement? Parce que j'ai lu que l'improvisation avait joué un rôle dans la conception du spectacle.
En fait, oui, moi j'ai travaillé ce spectacle pendant 2 ans. J'ai fait un premier atelier où j'avais vraiment les grands axes de l'histoire, donc qui étaient découpés en 5 chapitres. Donc il y avait la présentation du village qui se terminait par l'annonce de la mort de cette Ida Egger. Puis il y avait l'arrivée de la dirigeante avec les funérailles. Et puis il y avait la découverte. Voilà. Il y avait 5 chapitres. Parce que si je continue à raconter, vous allez connaître la fin.
Oui.
Mais donc, et donc voilà, donc je leur donnais des clés. Alors, il y avait beaucoup plus d'acteurs, parce qu'au début, il y avait beaucoup plus de personnages dans le village. Mais bon, voilà, question de production, etc., etc. Il faut réduire. Donc, moi, j'ai besoin de voir ceux qui sont vraiment nécessaires, ceux qui restent et ceux qui doivent s'en aller. Je parle des personnages, pas des acteurs. Et donc, voilà, c'était des longues impros, déjà avec 2 caméras, déjà avec la musique au plateau. Tout le monde improvisait ensemble et moi, je dirigeais, je donnais certaines informations. Tous les acteurs n'avaient pas toutes les informations. On a travaillé sur 5 jours. Et le premier jour, ils avaient le premier chapitre de l'histoire. Ils ne savaient pas du tout. Par exemple, ils ne savaient pas du tout que Martha Eger allait arriver. Donc, même l'acteur qui jouait Martha Eger n'était pas là, parce qu'au départ, ce n'était pas moi qui le jouais.
Ouais.
Et donc, voilà, on a fait des très longues impros comme ça, que j'ai filmées, montées. Et à partir de ce matériau-là, moi, je suis partie écrire. Et après, il y a toujours une phase d'écriture où c'est vraiment de l'écriture de table, où je passe un mois à écrire seule devant mon ordinateur pour revenir avec un scénario.
Tu es là. Pose cette arme. Pose-la. Car votre mineur, une tentative d'assassinat sur un représentant de l'État, c'est une vie entière en prison. Hélène. Toi aussi, elle t'a bassiné avec cette histoire. Toi aussi, elle t'a fait croire qu'il parlait les morts sur ce type. Mais elle était cinglée, ma mère. On te l'a dit ça au moins. Pourquoi vous voulez la parler d'où alors? Qu'est-ce que vous allez faire demain? Tu pensais vraiment que j'allais t'emmener sur le continent pour faire de la politique? Tu as 15 ans, Hélène. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne connais rien à rien. Et que tu es le modèle parfait pour tout un tas d'esprits tordus qui prolifèrent dans ce monde. Des gosses comme toi, ils sont occupés à en recruter pour se faire sauter sur les marchés. Ça te dirait ça, Hélène? Hein? Les flammes de l'enfer. Mais Hélène, pourquoi vous m'avez fait croire devant tout le monde que ce serait que vos visages partis alors? Mais parce que tu vas devenir. Ouais? Vas-y, Hélène. Va jouer ton rôle.
Joue ton rôle, dit Martha à Hélène, qui la met en joue. C'est vraiment une phrase très très importante hein, dans l'explication de ce que vous avez voulu montrer au spectateur. Anne-Cécile Vandalem, c'est vrai que cette Martha, on peut dire que c'est une metteuse en scène.
Oui, oui, tout à fait. Oui,
c'est... Elle vous ressemble alors, Anne-Cécile Vandalem.
Bah oui, c'est clair que. Enfin,
et c'est non, vous qui la jouez, c'est pas totalement
tout,
un hasard.
Pas
oui, ben voilà, vous me rassurez. Vous me rassurez.
Non, pas du tout. J'espère qu'elle me ressemble pas. Non, mais c'est vrai que j'ai décidé vraiment d'endosser le rôle parce que pour moi, ça avait du sens par rapport à justement ce projet de Martha et cette manipulation et cette réutilisation de cette histoire à ses fins.
Oui. Parce que bon, on va pas expliquer très précisément de quoi il s'agit, mais enfin, on peut quand même, en sortant de votre spectacle, se dire, mais c'est terrible, parce que là, en fait, le spectateur lui-même prouve, et la preuve, que la propagande, ça marche.
Bah oui, mais autant s'en rendre compte, hein.
Oui.
On s'en rendre compte.
Est-ce que c'est une mise en garde?
Ça a déjà marché.
C'est une mise en garde, ce spectacle, pour vous, Anne-Cécile
Vandalem?
Oui, bien sûr.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Après, je ne sais pas quel réel pouvoir ça va avoir de mise en garde. Mais oui, bien sûr, ça part d'une angoisse énorme et d'une inquiétude énorme. Et voilà, pour reparler de la propagande, on sait que la propagande a marché, a fonctionné. On sait la puissance qu'elle a. Et on sait aussi les outils de communication qu'on a développés depuis encore. Et donc, le pouvoir, la question, elle se pose aussi sur jusqu'où est-ce que la pensée ou la parole d'extrême droite, l'idéologie d'extrême droite va pouvoir s'insinuer? Pour l'instant, nous restons relativement protégés, en tout cas, parce qu'ils ne jouent pas sur le même terrain. Mais voilà, ça pose cette question-là, oui, cette grande inquiétude-là.
Anne-Cécile Vandalem, on va marquer une pause pour le Flash, les dernières nouvelles du monde. Et on se retrouve juste après avec vous et notre second invité, Olivier Coyette. Il présente au Théâtre des Halles ce que j'appelle « Oublie », un texte de Laurent Mauvignier. À tout de suite et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon. Jean-François Cadet.
toujours en direct de l'Hôtel d'Europe avec Anne-Cécile Vandalem, auteur de la pièce Tristesse qu'elle met elle-même en scène dans le gymnase du lycée Aubanel dans le cadre de ce 70e festival. Alors on voit très bien dans ce spectacle comment un parti politique, en l'occurrence d'extrême droite, peut récupérer un fait divers et peut le raconter différemment pour servir précisément une tactique politique. Qu'est-ce qui vous intéresse, Anne-Cécile Vandalem, dans le fait divers ?
C'est là où je vais puiser à peu près tout ce que, tout ce qui me permet de raconter des histoires. Je pense qu'il n'y a pas énormément d'histoires. En fait, on raconte un peu tout le temps les mêmes histoires, mais les faits divers sont finalement un peu toujours les mêmes histoires qui se racontent, mais avec des détails qui changent et avec des contextes qui changent. Et donc, c'est une matière qui est absolument géniale.
Le fait divers est révélateur de ce qu'est réellement l'humanité.
Bah, ça dépend comment on le regarde et ça dépend lequel on regarde. Je ne pense pas que les faits divers révèlent nécessairement, mais on a quand même été servi ces 2-3 dernières années de faits divers qui vont plus ou moins tous un peu, enfin pas tous, ceux que j'ai regardés, dans un sens qui m'a aidé en tout cas à raconter cette histoire.
Bonjour Olivier Coyette.
Bonjour.
On vous retrouve actuellement sous le chapiteau du Théâtre des Halles, toujours à Avignon, dans ce que j'appelle l'oubli. C'est l'adaptation d'un texte de Laurent Mauvignier, publié en 2011 aux éditions de Minuit. Lui aussi est basé sur un fait divers, survenu cette fois à Lyon en décembre 2009, et vous le présentez dès le début du spectacle.
Il marche avec les mouvements et les écarts qu'il faut pour éviter les caddies et les jambes, je ne sais pas s'il va tout de suite vers les bières, je ne crois pas. Il tombe dessus presque par hasard à droite dans l'entrée et non pas au fond à gauche comme il croit s'en souvenir. Les bières qu'il prend sont en bas du rayon, les moins chères qu'il prend par réflexe parce qu'il n'a jamais l'argent pour les payer. Il a voulu une bière, il a voulu une canette et l'a ouverte et bu sans bouger, sans avancer, sans se cacher non plus. Et avec l'idée de voler d'autres canettes pour boire dehors, car par moments, c'est vrai, il a tellement soif, il faut qu'ils boivent beaucoup. Mais là, ça ne dure pas longtemps, ils arrivent très vite, de chaque côté de l'allée, deux par deux. Et quand ils lui saisissent le bras pour l'entraîner avec eux, il n'a pas de mots assez adroits pour les amadouer. Non, il ne sait même pas.
Et la phrase continue, hein, parce que ce livre de Laurent Mauvignier, figurez-vous que c'est une seule phrase, une seule longue phrase. Alors il y a de la ponctuation, il y a des virgules, il n'y a pas de point, un petit point d'interrogation par-ci par-là quand même. Mais même à la fin, hein, il y a un tiret, je suis allé vérifier dans l'édition originale, il n'y a pas de majuscule non plus au début de cette phrase. D'ailleurs, les premiers mots du texte laissent penser que cette phrase a commencé avant.
Et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu.
Oui, parce que cet homme est mort, tué par les coups des vigiles qui sont intervenus dans ce magasin du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. Alors, Olivier Coyette, une seule phrase, je le disais, longue de 62 pages dans l'édition originale. Un texte comme celui-ci, en quoi est-ce un texte de théâtre ?
Dans le fait que normalement, si l'acteur est correct, il doit s'incarner sur le plateau, dans une adresse permanente, puisque l'idée c'était aussi de se perdre dans le regard des spectateurs et du coup de faire résonner le silence dans un texte qui prend la forme d'un monologue où il y a une longue parole et qui est ponctuée de silences qui sont les silences du public et non pas un monologue.
Alors, c'est un texte que l'on lit ou c'est un texte que l'on joue ?
C'est un texte qui a une certaine mélodie dans laquelle j'essaie de ne pas m'emprisonner. Pour la casser, pour créer du temps au présent, où le spectateur est invité à tomber dans le silence avec moi.
Oui, parce que vous le récitez, et en même temps, vous le suivez des yeux hein, oui. sur un pupitre. Pour quelle raison ?
Le texte est présent oui. En tant qu'objet, mais je m'en détache de plus en plus pour qu'il reste présent comme une trace. Entre la première à laquelle vous avez assisté et aujourd'hui, je tourne les pages de plus en plus mécaniquement, sans m'y projeter, sauf à certains moments, parce que avec Olivier Werner, qui était mon œil extérieur, on avait décidé que je me perdrais moi-même dans le regard des spectateurs, quitte à tomber dans un trou. Et pour en ressortir, il fallait que je retourne à la brochure.
Alors, pour vous, qui est le narrateur, Olivier Coyette ? Qui est celui qui parle, qui s'adresse au frère hein, de la victime, au frère de cet homme de 25 ans mort dans ce supermarché ?
À mon sens, c'est Laurent Mauvignier lui-même. C'est l'auteur qui a été frappé par ce fait divers parce qu'il est extrêmement choquant que l'on puisse s'autoriser à tuer quelqu'un pour que l'on puisse avoir une impunité pareille et sans vraisemblablement être puni lourdement par la suite, même si leurs gestes ont dépassé leur volonté à la base. On ne sait pas s'ils avaient voulu s'amuser, etc. Et puis, donc ils sont surpris eux-mêmes par ce qui se passe. Et puis ce narrateur disparaît au fur et à mesure du récit pour devenir le frère lui-même, le frère mort qui vient hanter les spectateurs, mais aussi la mémoire et la conscience des vigiles, et puis prendre toute la place. On termine sur la parole du frère mort.
Oui, c'est un texte qui est écrit de façon presque circulaire d'une certaine façon, hein, Olivier Coyette. C'est-à-dire qu'on revient souvent sur les mêmes faits, sur les mêmes sentiments, avec souvent une violence, hein, dans les propos, alors dans votre interprétation aussi, mais dans les mots eux-mêmes.
Oui, il y a un certain flou, une certaine habitude, et puis un effet d'écho. Vous avez très justement vu, c'était les termes qu'on avait ciblés avec Olivier Werner, et puis la colère qui est centrale, oui, et qui est le moteur central, parce que
vous montez vraiment très très fort, hein, parfois. Vous hurlez, quoi. C'est vraiment un cri du cœur.
Certains spectateurs m'ont proposé de me calmer, et donc certaines représentations.
Ce serait dommage.
Je vais moins fort dans la colère, mais je l'incarne quand même parce qu'elle est le moteur principal. Voilà.
Ouais. Mais pour vous, qu'est-ce qui a tué ce vigile? Pas ce vigile, cette victime des vigiles, plus exactement. C'est la bêtise humaine, c'est la brutalité ordinaire, c'est un dérapage significatif de la société dans laquelle on vit, ou c'est juste le fait d'un homme et d'un effet de groupe?
Une énorme frustration sociale qui habite ces quatre personnes qui ont des costumes de vigile avec la plaque sécurité qui leur permet d'entraîner cette personne qui est peut-être déclassée socialement, qui est peut-être en dehors de la société, qui a un t-shirt noir et jaune un peu informe comme ça, donc on croit qu'on peut s'en prendre à lui parce qu'il est pas balèze, parce qu'il est pas costaud, parce qu'il a pas un couteau, parce qu'il est pas en bande, et donc on l'entraîne dans le frigo et on commence à le taper pour lui faire peur, et puis tout d'un coup on se prend au jeu et puis ça va trop loin. Mais c'est d'abord une frustration sociale, c'est d'abord le besoin de se venger de je ne sais pas quoi, c'est ce que dit l'auteur. Je ne sais pas de quelle frustration il voulait se venger aussi, ça aussi je me le demande, dit Laurent Mauvignier. Donc c'est plein de questions. Et le fait de venir parler devant le public permet de faire un travail de deuil.
Alors la mise en scène est signée de l'écrivain haïtien Guy Régis Junior. Vous avez travaillé avec lui?
Alors je salue tous mes amis d'Haïti,
oui,
aussi les autres.
Et on est écouté en Haïti.
D'Afrique, Burkina, Congo, Burundi. Mais en Haïti, je les salue et les quatre chemins. On a commencé à travailler avec Guy Régis il y a 2 ans et il m'a beaucoup accompagné sur le texte. Et puis c'est Olivier Werner qui a pris le relais. Mais c'est avec Guy qu'on a commencé à faire ce travail il y a 2 ans déjà.
Et en quoi consiste le travail précisément sur un texte comme ça, parce que on se dit, mais il n'y a pas énormément de mise en scène en réalité, visuellement parlant.
Non, il y a des courants chauds, tièdes et froids. Il y a des couleurs aussi, donc on peut aller dans le rouge intense, le rouge vif ou le bleu foncé, et puis après on travaille les pastels. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec la subtilité.
Ah bon?
Donc
pourquoi?
Je suis plus quelqu'un de tranché, étant donné mon caractère. Et en plus, comme je viens sur le plateau en étant plutôt moi-même, j'ai travaillé sur la colère. Mais Guy avait divisé le texte en 3 grandes parties. D'abord une grande phrase qui durait une demi-heure, et puis une monter dans la colère explosive, et puis tellement explosive qu'il faut bien redescendre sur terre et se calmer. Ça, c'était le chemin proposé par Guy. Et avec Olivier, on a travaillé sur 4 zones, le flou, l'hébétude, la colère, et puis l'effet d'écho. Et donc, je vous dis que moi, j'en ai fait une synthèse de colère.
Oui, parce que donc c'est vrai que vous êtes vous-même, c'est ce que vous venez de dire, Olivier Coyette, parce que là finalement vous êtes venu avec votre costume de scène, hein, quasiment dans cette émission,
scène, hein, que
parce que vous n'êtes pas habillé d'une façon très particulière, c'est vraiment l'homme que vous êtes, l'homme que l'on peut croiser dans la rue, qui fait part de sa colère au spectateur.
Je pense que c'est une rencontre, ce texte-là en particulier, entre un comédien et un texte, une écriture, elle ne nécessite pas nécessairement un costume particulier, mais quand même une certaine tenue, c'est-à-dire que j'enlève mon Bermuda et je mets un pantalon pour aller sur le plateau. Mais je comprends pourquoi Denis Podalydès l'a aussi interprété et conçu lui-même, parce que c'est une rencontre personnel et qui résonne personnellement entre un acteur et un texte.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur les silences, puisqu'on a abordé cette question il y a quelques instants. L'importance des silences, c'est vrai que Guy Régis Junior insiste, hein, dans sa note d'intention là-dessus. Un silence, c'est fait pour quoi?
Pour mettre mal à l'aise.
Pour mettre mal à l'aise celui qui écoute, ou pour mettre en valeur les mots qui entourent ce silence?
Si possible, on arrive à ce que vous dites. Mais d'abord, c'est le partage d'un... Je prends le temps d'être dans la question et je la fais résonner dans la salle. Et du coup, il y a un malaise qui se propage parce qu'il n'y a pas de réponse. Ou s'il y a une réponse, elle n'est pas bonne. Ou on n'a pas la bonne réponse, ou la question était, elle n'était pas bonne non plus. Donc, quoi qu'il en soit, on n'en sort pas. Et aussi, le fait de mettre des mots sur la douleur, ça permet, parce que au début, je viens annoncer la mort du frère, mais à la limite, tout le monde la connaît, ou en tout cas, ce qu'il va dire pendant 60 pages n'apporte pas vraiment d'informations supplémentaires, mais permet, en revenant et en repassant par les mêmes endroits, de faire le deuil, qui est un deuil impossible et qui est quand même toujours nourri de colère.
Anne-Cécile Vandalem, est-ce que vous travaillez sur les silences, précisément? Parce que je n'avais pas envie de vous demander, comment est-ce qu'on met en scène un silence?
Je travaille énormément sur les silences et si on regarde par exemple mes textes, il y a des silences à quasiment toutes les phrases. Le silence est pour moi aussi important que la parole. Voilà, ils sont écrits, donc ils rythment très clairement la lecture. Donc dès la première lecture, les comédiens ont des indications sur les. Je fais une différence entre les temps et les silences. Donc c'est très présent aussi pour diverses raisons. Aussi, bien sûr, en travaillant avec la caméra, le visage qui ne parle pas, l'attitude qui ne parle pas, le dos, l'image volée est tout autant parlante, tout aussi parlante que le langage. Et puis il y a un personnage qui ne parle pas du tout aussi.
Oui, effectivement, dans le spectacle. Lorsqu'on parle de la mort, est-ce que justement le silence a une valeur particulière ?
Par rapport à la mort ? Pas ici, parce que pour moi, la mort, déjà, moi, j'ai une vision de la mort qui est extrêmement puissante. Et dans cette histoire, la mort est en fait la seule chose qui est puissante, puisque donc cette morte revient, commandite plus ou moins le meurtre de sa fille, et puis ces morts enchantent l'île, ils chantent, ils font de la musique, à faire des blagues. Donc la mort a une puissance assez forte et s'exprime. Mais s'exprime, comme on le dit, la nuit, s'exprime, ils reviennent aussi pour hanter ce pasteur. Voilà, il y a une manière de s'exprimer qui est assez différente des vivants.
Nouvel extrait de votre spectacle, on est dans la petite église du village de Tristesse.
Je voudrais vous dire à quel point Ida avait été un modèle pour moi et pour les petits. Cette façon qu'elle avait d'être si joyeuse, elle m'a rendu beaucoup de services. La nuit où j'ai accouché de la petite, cette nuit où toi, Sorel, t'étais sur le continent, elle a passé la nuit avec moi à la maison et elle m'a veillée comme ma propre mère. Elle a élevé les petites comme ses propres petites filles. Les petites filles qu'elle aurait sans doute voulu avoir. Enfin, voilà, c'était une famille. Et maintenant, j'ai fini ma phrase.
Très bien. Il va falloir faire un effort.
Et les musiciens, Pierre Kiesling et Vincent Cahé sont sur le plateau du gymnase du lycée Aubanel. Ils jouent en live et ils sont même des personnages aussi sur ce plateau, Anne-Cécile Vandalem.
Oui, tout à fait. Donc
avec un look très particulier.
Ah ben oui, ils sont morts, c'est des fantômes.
Voilà, ce sont des fantômes, tout simplement.
C'est des fantômes, c'est... Oui, donc ce sont les deux frères qui sont... je ne vais pas révéler grand-chose en le disant, c'est les deux frères qui sont suicidés, les deux frères du maire, donc de Søren Petersen, qui sont suicidés suite à la fermeture des abattoirs. Puis il y a un troisième personnage qui est Ida Egger, qui elle aussi est là et chante, qui est donc soprano et qui chante et qui accompagne. Donc ces trois fantômes, en fait, chantent et voilà, enchantent cette île.
Oui, la musique et le chant sont directement intégrés à la dramaturgie. C'est pas uniquement une question d'ambiance ou d'atmosphère. Ça participe du déroulé de l'histoire.
Ah oui, complètement. Bon, alors là, j'ai réfléchi longtemps parce que les chants qui chantent, en fait, sont des extraits des citations du Léviathan qui sont projetées, qui amènent aussi encore une autre lecture de l'histoire. Il se fait qu'ils les chantent à l'envers, donc ils ont renversé toutes les paroles, parce que je me suis posé la question de longtemps de chanter en français. Mais je ne voulais pas que les morts aient la même fonction au niveau du langage. C'est-à-dire que le fait que ce que les morts disent soit compréhensible, finalement, amenait un rapport qui était, voilà, un rapport qui faisait part à la compréhension, qui n'était pas du tout de cet ordre-là. C'est un raccourci un peu simple de dire, bon, voilà, la musique est poésie ou la musique est émotion. Mais il y avait quand même cette volonté de ne pas recourir à la même chose. Il y a une autre force qui se dégage et qui est beaucoup plus poétique et inexplicable. C'est pour ça aussi que je ne donne pas je vous la donne aujourd'hui, mais d'habitude, je ne donne pas cette explication de ce reverse qu'ils ont.
Olivier Coyet, pas de musique dans votre spectacle, mais le texte parle également de la mort et il parle surtout du corps qui sent la mort arriver. Comme s'il se préparait finalement à l'instant fatal, le corps de cet homme qui va mourir sous les coups des vigiles dans le magasin.
Oui, on restitue le climat, ou en tout cas le narrateur essaie de penser ce que... Ce frère qui était donc son ami, c'était un ami du narrateur. Il vient parler au frère qui reste encore en vie, ce qu'il a dû ressentir au moment où le danger s'est précisé, et puis le moment où les coups ont plu, etc. Et il a même le temps d'inventer ce à quoi il a pu penser. Il n'a pas pensé à ce que disait sa mère, il n'a pas pensé à des souvenirs, etc. Des souvenirs joyeux et tout ça. Mais il y a un climat, effectivement, de quand ça arrive, quand ça survient, quand ça surgit. Ce climat-là, un peu étrange. Et puis, il faut bien qu'il y ait une victime collatérale, puisque un frère est mort, c'est l'autre qui va payer. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va continuer toute sa vie à repenser à ces moments-là. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir, ce par quoi il a dû passer, pourquoi il n'a pas crié, pourquoi il ne s'est pas rebellé aussi, parce que il aurait pu tout à fait dire, écoutez, j'ai bu une bière, bon, c'est pas grave, quoi. Et ça va trop loin.
Oui, ce qui pose la question, effectivement, de la relation qu'il y a entre deux frères, et ce qui pose aussi la question du deuil. Très très présent également dans le spectacle.
Ouais, c'est ça. Ça fait du frère, ça fait du public le frère, et on essaie de, c'est en même temps une thérapie de groupe, mais oui. C'est une sorte de séance où on essaie de s'interroger sur la valeur du langage pour mettre des mots sur une douleur qui est indicible. Avec ça et là, tout de même, des pointes d'humour que je commence à discerner chez Mauvignier, mais je ne savais pas si je pouvais me les permettre. Mais ça commence ça rigole, ça frémit un peu, là, de temps en temps. Puis à un moment donné, ça rit plus du tout. Mais bon, quand même, ces gardes, ils ont l'air un peu bizarres, ils ont des têtes un peu bizarres. Il y a des moments de tendresse.
Anne-Cécile Vandalem, le deuil, est-ce qu'il passe aussi par le langage? Parce qu'on se rend compte que c'est les habitants de tristesse, c'est aussi en raison du non-dit qu'ils n'arrivent pas finalement à dépasser les drames.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le deuil. Je ne sais pas s'il faut appeler ça le deuil. En tout cas, oui, c'est clair que c'est les non-dits et c'est tout ce qui a été caché. Et puis qui s'insère dans ces non-dits aussi, parce qu'il y en a qui en profitent. Donc, il y a toujours des gens qui sont là pour profiter à un moment donné de ce genre de situation. Et voilà, cette figure du pasteur est aussi une figure pour moi de bouc émissaire, parce que on raconte quand même que depuis qu'il est petit, il se fait taper sur la gueule parce qu'il était gros, et qu'à un moment donné, il développe aussi. Je voulais travailler sur cette figure du bouc émissaire aussi, qui à un moment donné, à force d'humiliation permanente, se retrouve à la moindre ouverture, la moindre possibilité de vengeance. Mais évidemment, alors dire que le langage permet d'effectuer le deuil, j'en sais rien, parce que c'est précisément au moment où les choses ont été énoncées qu'ils vont s'entretuer. Donc,
c'est vrai. Effectivement, attention, rien n'est très clair. Alors, un dernier extrait, très court, de votre spectacle, Olivier Coyette, et des mots de Laurent Mauvignier que vous dites sur scène, ce que j'appelle l'oubli.
Personne ne compte vraiment, ne compte pas sur personne, ni pour personne, car à la fin, tout dort dans l'oubli. Et ce n'est pas plus mal, ça, d'oublier.
Vous êtes d'accord avec cette phrase, Olivier Coyette?
Oui, mais...
C'était pas plus mal d'oublier?
Parce que il va continuer à dire que, bon, c'était violent à la fin, mais juste avant de mourir, il a eu un monde bien triste à contempler. Mais ce qui reste dans, j'espère, l'esprit des spectateurs, c'est que l'idée que la vie n'a pas été pingre avec lui, c'était un grand vivant, ce frère. Et son silence au moment où les vigiles arrivent, c'est un geste d'homme libre. Il a refusé de commencer à se battre, de commencer à se justifier, etc. Donc, il avait choisi d'être à cet endroit-là de la société, et c'était un grand vivant et quelque part un jouisseur. Aussi.
Oui, Anne-Cécile Vandalem, on a tendance à oublier un peu trop facilement. On a un peu l'impression, en regardant votre spectacle, que on a tendance à oublier l'histoire et que c'est l'histoire qui peut finalement nous permettre d'avancer.
Oui, on a une faculté à oublier qui est assez impressionnante.
Plus qu'avant.
Oh ben ça, j'en sais rien, j'y étais pas avant.
Oui, donc,
je ne sais pas. Mais l'observant depuis là où je l'observe, je me dis qu'on a une... Bon, alors les choses changent quand même. Ça ne se répète pas exactement de la même manière, mais enfin, on voit quand même un peu partout en Europe des situations qui se répètent totalement. Enfin, c'est presque une mascarade. Voilà, il faut le remarquer, parce que sinon, c'est pas possible. On est trop bêtes.
Il y a des raisons d'être inquiets.
Ah bah oui.
Aujourd'hui, de la façon dont les démocraties européennes évoluent.
Ben, vous me posez la question ? Oui, vraiment.
Oui. Et vous, Olivier Coyette, est-ce que finalement c'est une inquiétude sur la façon dont l'homme se comporte aujourd'hui dans la société que Laurent Mauvignier et votre personnage, votre narrateur, dénonce finalement à travers ce spectacle ?
Je ne sais plus qui a dit les peuples qui oublient l'histoire sont condamnés à la revivre ou les peuples qui oublient l'histoire sont destinés à mourir de froid. Moi, je suis assez optimiste. J'ai choisi d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, disait Voltaire. C'est mon chemin, c'est mon choix. Non, je crois en l'homme à fond la caisse. Je crois que on va y arriver, on va s'en sortir, tout ira mieux, parce que c'est un choix et c'est aussi la position du frère. Malheureusement, il s'est fait tabasser dans un frigo, mais je serai assez proche de lui.
Merci beaucoup, Anne-Cécile Vandalem. Tristesse au gymnase du lycée Aubanel jusqu'au 14 juillet. Merci, Olivier Coyette. Ce que j'appelle l'oubli à 19h au Théâtre des Halles.
Le Festival d'Avignon sur RFI.
On va remonter le temps justement et partir en Algérie, à Sidi Farès plus précisément, ce village près d'Alger pendant l'année 1988, pour suivre une histoire d'amour à présent, celle de Leïla et Samir, une passion qui a pour cadre une Algérie tourmentée par les pénuries de nourriture au bord de l'implosion sociale. La main de Leïla, c'est un texte coécrit cette année par deux jeunes talentueux comédiens, Aïda Achagazé et Kamel Isker. C'est au Théâtre des Béliers en ce moment jusqu'au 30 juillet à 15h35, une heure d'évasion et de romantisme suivie pour nous par Marie Jiquel.
Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux et ils se cachent. Le schéma narratif est classique. Samir et Leïla sont séparés par le père colonel de cette dernière. C'est donc sur une terrasse que les deux tourtereaux se retrouvent la nuit. Ensemble, ils parlent de cinéma et rêvent de quitter leur pays. L'Algérie de 1988 menacée par les révoltes sociales. Pour écrire sur cet épisode historique, Kamel Isker, un des deux auteurs, a invité toute l'équipe de la pièce dans sa famille en Algérie pour tisser ensemble un cadre spatio-temporel au plus près de la vérité.
Il n'y a malheureusement pas eu d'enquête sur ce qu'il s'est réellement passé. Le nombre de morts, il y a un chiffre officieux et officiel. Et du coup, on s'est donc énormément documenté. Et
le voyage en Algérie nous a aussi permis de rencontrer des gens. C'est une anecdote toute bête, mais à un moment, on cherchait des musiques pour le spectacle. Il y a un monsieur qui nous entend parler et puis qui commence à nous dire « Vous voulez des infos sur octobre 88 ?» Donc la conversation se fait plus basse pour pas trop entendre ce qu'on dit et même le disquaire faisait attention à qui entrait ou pas.
Ce petit bijou est porté par une écriture cinématographique virevoltante, une voix off, des lieux vivants et une galerie de personnages très attachants, comme dans ce bus où Leïla retrouve une amie.
« Ah, mais je suis là !» Bouge pas, j'arrive, pardon, smiley. Aïe, pousse-toi, Nta, laisse-moi passer. Habibti, comment ça va?
C'est ça. Et toi, la baisse?
Ça va, alhamdoulilah, on est dans le même bus.
C'est super. Bon, et ton mariage? Ça se présente bien?
Je suis contente.
C'est dans une semaine, je suis stressée, hein, mais je suis contente. En plus, t'as entendu la radio hier? Ils ont dit que l'eau allait arriver ce soir.
Ouais, j'ai entendu, ouais.
Ah, j'espère cette fois, Inch'Allah, c'est la vérité, parce que t'imagines, si le mariage il est là et que l'eau n'est pas là, ah, le mariage il est à l'eau.
Aziz Kebouche, le troisième comédien, endosse plusieurs rôles avec énergie et malice.
Je sais même plus combien il y en a d'ailleurs. Si, je crois que j'en ai sept. C'est ça, j'en ai sept. Ils sont à la fois différents, mais ils sont très représentatifs de l'Algérie. Il y a beaucoup d'humour, mais il y a un vrai contenu dans la pièce qu'a écrite Aïda et Kamel. Et donc, par rapport à ça, il était très important de toujours trouver la sincérité des personnages. Mais donc, la sincérité, ce n'est pas simplement une question de jeu, c'est une question de d'où ça vient et à quoi ça correspond par rapport à l'Algérie.
Enfin, cette invitation au voyage dans le village de Sidi Farès dépend grandement de la mise en scène ingénieuse et espiègle, au décor qui tiennent sur des fils à étendre le linge, une suite de bonnes idées orchestrées par le metteur en scène Régis Vallée.
Ce qui est hyper important dans cette pièce, c'est la terrasse. Et j'ai eu cette idée des fils à linge qui permettent de structurer les espaces et de passer d'un lieu à l'autre en 2 secondes. Et puis, bah, on est parti là-dessus avec Philippe Bujasco, mon scénographe, qui est un bricoleur de génie, un roi de la récup. L'idée, c'était de faire une mise en scène avec tout un jeu de récup.
La main que nous tend Leïla est chaleureuse, promesse d'un bon moment passé au théâtre. Une pièce qui a déjà conquis beaucoup de spectateurs puisqu'elle est complète depuis sa première représentation.
Reportage de Marie Jiquel. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Jean Bellorini qui adapte les Frères Karamazov de Dostoïevski dans l'un des lieux les plus magiques du Festival d'Avignon, la Carrière de Boulbon. À demain et vous m'en direz des nouvelles.